2 dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous. Bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychanalyste et gestalt-thérapeute, formateur en relations humaines. Au sein de l'Institut de formation Psychrétien, avec Marie-Laurence, son épouse, il propose, à travers des parcours adaptés à chacun, aux diverses situations, eh bien, une aide thérapeutique qui permet de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité, avec les autres, et cela afin d'être plus disponible à l'accueil de l'action de Dieu dans notre vie. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, nous continuons notre série sur la gestion des émotions. Et après avoir parlé de la colère la fois dernière, nous parlons ce soir de la tristesse. Comment gérer la tristesse?
Voilà, encore une expérience qu'on a tous vécue et que nous connaissons.
Oui, bien sûr.
Ça fait partie de la vie.
Oui, oui.
Et pourtant, chacun peut la gérer différemment en fonction de son histoire, du moment, de la situation, de ce qu'il est.
Oui, donc c'est variable. On peut connaître des tristesses différentes et les gérer différemment aussi.
Les gérer différemment, à la fois en fonction de qui on est, des événements, du type d'événements. Il y a des événements qu'on gère plus facilement que d'autres. Et puis du moment où ça se produit dans notre vie, où on sera peut-être un peu plus sensible, ou à d'autres moments un peu moins sensible.
Voilà. Alors, donc on va gérer cela selon les situations. Mais il y a aussi des tristesses qui sont liées à un événement, bien sûr, puis d'autres qui durent, qui peuvent devenir chroniques.
Oui.
Là aussi, c'est différent.
Oui, alors c'est différent et c'est important de distinguer les deux. Autant c'est normal d'être triste quand il nous arrive un événement douloureux, autant quand ça dure, quand ça devient chronique, ça veut dire qu'il se passe quelque chose qui se résout pas. Donc ça, on va en parler, mais voilà, il faut bien distinguer les deux. Quand il y a un événement, on est triste, c'est normal. Oui. Si ça dure, il faut se poser des questions.
D'accord. Parce que c'est plus profond, enfin c'est...
Voilà, c'est que ça vient toucher quelque chose de plus profond. Ou alors qu'on n'a pas évacué cette tristesse au moment de l'événement.
D'accord. Alors on va voir ce soir comment on peut s'en sortir. Alors, d'abord, qu'est-ce que la tristesse? Alors on sait ce que c'est, mais comment on peut le définir?
Voilà, alors c'est une émotion qu'on ressent face à une situation. Le plus souvent qui est associé à une perte, on pourrait parler du deuil, mais à toutes les pertes de la vie, enfin tout ce qu'on vit comme une perte plutôt, alors qui peut être transitoire, qui peut être définitive, pour la perte ou un manque. Le manque aussi peut rendre triste, mais on verra que derrière le manque, il peut se cacher quelque chose.
D'accord, oui.
Ce qui fait qu'on peut être triste, par exemple, quand on a un ami qui part et qu'on pense ne pas le revoir avant un certain temps, ou quand on se sépare d'amis à la fin des vacances.
Une sorte de nostalgie,
une tristesse. Oui, une tristesse liée à la séparation.
Oui.
On peut être triste aussi quand on vit un échec, que ce soit par exemple un jeune à un examen, un jeune qui rate son bac ou qui rate un examen, il va être triste. Ça peut être aussi face à un échec professionnel, quelque chose qu'on attend. Si on ne l'a pas, on va être triste.
Oui.
On peut être triste quand on manque de reconnaissance, par exemple. ou en tout cas quand on a eu l'impression de bien faire et qu'on nous dit pas, qu'on est en attente d'une reconnaissance et qu'on nous le dit pas. Quand on est seul, voilà, il y a souvent la solitude, ça peut renvoyer à une tristesse. Bien sûr, à l'annonce d'une maladie ou d'une difficulté importante dans la vie, mais aussi face à des situations qui sont plutôt agréables. Par exemple, on peut ressentir de la tristesse face à un beau paysage, face à la nature, face à un coucher de soleil, une œuvre d'art.
Est-ce que ça renvoie sûrement, là, quand même...
Alors, ça nous renvoie à quelque chose.
Oui, bien sûr.
Mais ça peut arriver qu'on ressente une certaine tristesse face à quelque chose qui est plutôt beau, qui devrait à la fois qui
nous réjouit,
en tout cas qui nous éveille une admiration, mais qui devrait nous réjouir et on peut ressentir de la tristesse. Et puis il y a même des personnes qui pleurent de joie, par exemple. Certaines femmes, après l'accouchement, quand elles accueillent leur bébé, elles vont pleurer de joie.
Ben oui, bien sûr, c'est une émotion, de toute façon.
Voilà, c'est une émotion.
Mais alors, pleurer de joie, c'est plus la tristesse. Enfin, mais et les pleurs sont liés à la tristesse. C'est mélangé.
C'est plus mélangé que ça, en fait.
C'est plus
mélangé, parce que d'un côté, il y a la joie d'accueillir l'enfant, de l'autre côté, il y a une séparation avec la naissance.
Oui, bien sûr.
Donc,
il y a les deux ensemble, là.
Les deux sont ensemble.
On voit que c'est pas si simple que ça. Non. Alors, c'est vrai qu'il y a dans la langue française, dans le langage courant, des termes qui expriment différentes nuances que peuvent revêtir la tristesse, par exemple. Donnez-nous des exemples.
Voilà. Par exemple, avoir la larme à l'œil, avoir un coup de blues, le chagrin, bien sûr. Le chagrin, le cœur serré, le cœur qui saigne, l'affliction, le cafard, la morosité, la lassitude, la nostalgie. Alors, dans la nostalgie, je suis en train de penser au brésilien et à Saudade, où c'est un mélange et de joie et de tristesse. C'est un peu mélangé, la nostalgie. La déception, la déprime, l'accablement. L'abattement, la dépression, la mélancolie.
On voit qu'il y a vraiment un tas de mots un peu différents les uns des autres, mais enfin, pour certains.
Tous un peu différents qui montrent toutes les nuances qu'il peut y avoir dans la tristesse, toute son intensité aussi entre le coup de blues et la mélancolie, par exemple. Il y a toute une échelle qui passe.
Bien sûr.
La larme à l'œil et puis l'accablement aussi.
Oui, la déprime, c'est l'abattement. Oui, on sent bien qu'il y a des nuances là. C'est ça. Il y a des choses qui sont plus passagères, plus superficielles, et d'autres plus profondes, plus comme un état.
Voilà, alors c'est à la fois la profondeur et à la fois, quand on parle de dépression, c'est plus, on rentre dans la maladie, on rentre dans quelque chose de plus permanent, donc on vit plus comme un état, alors que la larme à l'œil, c'est quelque chose de très ponctuel.
Voilà, oui, donc il y a plein de nuances qui expriment des variations de forme, d'intensité. On voit que la tristesse, elle peut prendre des formes et des intensités différentes.
Voilà. En fonction et de l'événement, et de la personne, et du vécu,
moment aussi,
du
moment,
du
l'histoire,
vécu, de l'histoire.
Alors, donc, est-ce que, par rapport à la tristesse, on trouve aussi des préjugés par rapport à la tristesse?
Oui, la tristesse, on l'avait vu pour la colère la dernière fois, il y a beaucoup de préjugés.
par rapport à la colère et par rapport à la tristesse.
La tristesse n'échappe pas non plus aux préjugés.
Alors, par exemple...
Et du coup, souvent, elle est vue comme une faiblesse. Alors, peut-être, sauf dans le cas du deuil, où c'est socialement admis, finalement, d'être triste. Donc, il y a un certain nombre de situations où la tristesse est légitime socialement. Mais dans les autres cas, c'est souvent perçu comme de la faiblesse. Alors, et même quand, on pourrait dire même quand c'est perçu légitime, faut pas que ça dure de trop. Hein.
Voilà. Oui, c'est ça, ben on a peur que ça soit contagieux, peut-être.
Alors, les émotions sont un peu contagieuses, hein. Donc du coup, et puis ça touche, quelqu'un en tristesse, ça nous touche.
Ben oui, bien
donc
sûr.
Du coup, les gens aiment pas trop, on sait pas toujours quoi faire. Voilà, donc les autres aiment pas trop.
Mais, donc il faut pas que ça dure trop longtemps.
Voilà. Et puis souvent c'est associé d'abord à un manque de contrôle. Quelqu'un qui pleure par exemple au bureau, on se dit bah ça y est, il est en train de péter un câble, ça va plus, enfin ou il fait une déprime. Donc il y a beaucoup une notion tristesse égale manque de contrôle. C'est aussi vu comme quelque chose d'immature, comme si avec les enfants qui avaient le droit de pleurer, d'être triste. Alors bien sûr, ça renvoie aussi à la vulnérabilité. Si on est triste, c'est qu'on est touché, donc on a une sensibilité et une certaine vulnérabilité.
Mais c'est bon d'être sensible.
Mais ça fait partie de l'être humain et c'est plutôt bon. À la fragilité aussi, on associe beaucoup tristesse et fragilité. Quelqu'un qui pleure, peut-être que les gens disent « Ah, il est fragile ». Parfois à la complaisance. Alors ça, c'est plutôt quand ça dure, quand c'est un peu chronique, les gens ont tendance à dire « Ah oui, mais il se complaît dedans » ou « Il se complaît dans sa tristesse » ou « Dans sa dépression ». Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, hein, mais voilà, c'est un peu... Et puis, à la dépression. Hein. Quelqu'un qui se met à pleurer au travail, souvent, les autres vont dire « Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, il est en dépression. » Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de préjugés
par rapport
sur
à
la tristesse.
Alors, pourtant, bon, c'est une émotion qui touche et donc qui doit nous parler, puis nous...
Oui, parce que quand il y a quelqu'un qui pleure, on est touché, c'est normal. Ça nous invite à être attentif à l'autre aussi,
bien sûr.
À la compassion. Et du coup, généralement, quand il y a quelqu'un qui est en larmes, l'accueil est plutôt chaleureux.
On essaie de consoler la personne, de voir ce qui ne va pas.
En tout cas, on est bienveillant, on est chaleureux, on essaye de l'aider. Donc, on voit qu'il y a, d'un côté, il y a tous ces préjugés qui font que les gens peuvent se sentir coupables ou honteux de pleurer ou d'être tristes. Et de l'autre côté, il y a quand même une attitude des autres qui, a priori, est plutôt compatissante, plutôt chaleureuse, plutôt bienveillante. Alors, on pourra nuancer, sauf quand ça devient chronique, parce que là, les gens ne savent plus trop comment faire. Peut-être quand c'est trop, quand ça se manifeste de trop, les gens ne savent pas quoi faire, ils ne savent plus quoi dire. Et puis quand c'est chronique, c'est un peu pareil.
Alors, on va voir dans quelques instants comment aussi l'expression de la tristesse. Et bien sûr, nos auditeurs, c'est une expérience que chacun a vécue.
On l'a tous vécue dans l'enfance, adulte.
Donc, il n'y a pas de problème, mais plus ou moins, on a des tendances à être plus ou moins tristes. Et puis, il y a des événements aussi qui, effectivement, nous rendent tristes.
Ça fait partie de la vie aussi, que de vivre ces événements.
Alors, je rappelle le téléphone à nos auditeurs, 01 56 56 44 00, comment gérer la tristesse, hein, puisque nous parlons tous ces temps-ci des émotions diverses. Ce soir, comment gérer la tristesse? Eh bien, voilà, vous qui vivez une tristesse, des tristesses, qui êtes tristes, peut-être de façon chronique, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et nous allons écouter tout de suite Claude Nougaro. Voilà, l'espérance, lui chante l'opposé, quelque part, ouais. L'espérance en l'homme.
Radio Notre-Dame.
D'une vie qui fut mouvementée dans un siècle où l'horreur battit ses records. Parmi les êtres qu'on a pu rencontrer sur le seuil d'un grand rêve ou dans des corridors, au cours d'une vie de vertes et de pas mûres, à se dire quelquefois que le monde est foutu, que l'homme est fou, qu'il va droit dans le mur. Il arrive que cette vie si cruelle et tordue s'ouvre sur un jardin d'odeurs, comme en avaient les fleurs que l'on avait cru disparues. S'ouvre mystère et boule de gomme, quand l'espérance en l'homme chantait encore dans les champs et les rues, dans les champs et les rues. Au cours d'une vie qui fut mouvementée, il arrive qu'un jardin, un simple visage humain, une main prend un nouveau chemin. Traversée de voyage au bout de la nuit, à se dire suffit, mais tout de même hanté par la mort qui fait le mort et par le temps qui fuit. S'ouvre tout un jardin d'odeurs, comme en avaient les fleurs que l'on avait cru disparues. S'ouvre mystère et boule de gomme, quand l'espérance en l'homme chantait encore dans les champs et les rues, dans les champs et les rues. Au cours d'une vie qui fut mouvementée, il suffit d'une voix, un certain regard pour qu'on voit un espoir toujours recommencer. Que l'on croit en l'amour planté sans cesse et replanté dans le cours d'une vie mouvementée. Tous pardonnent, tous gomment et l'on voit soudain reverdir, refleurir notre espérance en l'homme. Il arrive qu'un jardin ou qu'un simple visage humain, une main ouvre un nouveau chemin. Tout se gomme, se pardonne et l'on voit soudain reverdir, refleurir notre espérance.
Se gomme, se pardonne et on voit refleurir notre espérance en l'homme. C'est vrai qu'à ce moment-là, on sort de la tristesse.
On sort de la tristesse. Mmh. On pourra mettre les choses dans les deux sens, d'ailleurs. C'est, puisqu'il dit « tout se gomme, se pardonne » et on voit refleurir l'espérance.
Oui.
Mais On pourrait mettre aussi l'espérance.
Oui.
Si elle est première, permet aussi et va favoriser le gommage, le pardon et,
c'est ça.
Et la sortie.
Et la sortie de la tristesse. Ouais. On va pas. Voilà. Donc. C'était ben voilà en rapport quand même avec ce que nous évoquons ce soir, comment gérer la tristesse. Alors, comment la tristesse, on va voir comment elle s'exprime, comment elle va s'exprimer la tristesse de différentes façons.
Voilà, ben c'est d'abord une sensation intérieure qu'on connaît tous, hein, quand on est triste.
On le ressent, hein, ça. Oui.
Voilà, on le ressent, on sait le dire. Et puis, associé aux larmes, qui finalement en sont l'expression. Alors, larmes ou pas, en tout cas, il y a les larmes qui arrivent. Après, elles coulent ou elles ne coulent pas, suivant le contrôle de la personne. Mais là aussi, la forme, on pourrait dire qu'elle va dépendre à la fois des nuances de la tristesse, de un peu de tous les synonymes qu'on a dit, et puis de son intensité.
Oui.
Et du coup, la tristesse, ça peut aller d'une expression intense et très viscérale, comme une bouffée de rage, par exemple, ce que le langage courant appelle une bouffée de rage, en tout cas quelque chose de très viscéral qui monte d'un seul coup, comme ça, quand il y a un événement dramatique. Un petit sentiment de nostalgie qui est finalement assez léger, presque agréable d'ailleurs. La nostalgie, il y a un côté agréable, enfin c'est assez sympathique. Voilà, donc ou une tristesse à la limite de l'agréable et légère, ou quelque chose d'intense, d'incontrôlable, quand il y a une perte brutale, par exemple, d'une personne aimée.
Mais oui, il y a des degrés différents, hein, bien sûr, oui. Selon les situations. Alors, quelles sont les autres sensations qui peuvent accompagner la tristesse?
Voilà, on parlait de la larme à l'œil, il y a les sanglots aussi, les sanglots incontrôlables. Oui. Et puis parfois, quand il y a vraiment un choc, ça peut aller jusqu'à la sensation de devenir fou. Alors, on n'est plus tout à fait dans la tristesse. On est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du choc, de la sidération, mais finalement qui est là pour protéger de la tristesse qui est trop grande.
Ah oui, ça
donc,
protège.
Le choc, c'est un moment
où tout s'ébranle.
Où tout s'ébranle, mais en même temps, où les choses s'arrêtent. C'est une sorte d'arrêt sur image.
Ah oui.
Voilà, qui protège d'une tristesse qui serait trop importante. Qui serait trop intense.
Oui, le choc arrête. Oui.
Voilà. Et du coup, alors c'est pas de la tristesse, mais c'est ce qui nous en protège et on pourrait presque dire que ça fait partie des manifestations de la tristesse. Et puis, il y a d'autres sensations qui peuvent accompagner la tristesse, comme la gorge serrée. Hein. Souvent, la gorge serrée, ça vise à bloquer en quelque sorte l'émotion, bloquer les larmes. Les tremblements du visage, c'est aussi le signe d'un contrôle qui n'est pas totalement efficace, où la vie arrive à passer. Tristesse va passer à travers les tremblements. Les sensations de lourdeur, d'abattement, de pesanteur.
Alors, tout d'abord, on va voir, parce qu'il y a différentes les tristesses qui sont liées à différentes choses. La tristesse, d'abord, qui est liée à une perte, hein, parce que là, quand on la perte, le deuil, par exemple, ce qui est la plus grande perte, on comprend. Voyons d'abord la tristesse qui est liée à une perte.
Finalement, c'est la tristesse la plus simple pour nous, en tout cas la plus compréhensible. Parce que à ce moment-là, la cause est facilement identifiée. Dans le deuil, La tristesse participe au travail du deuil, notamment, et à tout ce qui est élaboration de la perte. Oui. À la fois, quand il y a un deuil, on sait ce qu'on perd.
Mais oui, bien sûr.
Mais la tristesse nous permet d'élaborer cette perte.
Ah, ça fait partie du travail d'élaboration.
Tout à fait, oui. C'est ce qui nous permet
oui.
D'amorcer, d'élaborer, de faire tout ce travail de deuil.
D'accord.
C'est le temps où on va rassembler tout ce qui était lié à la personne perdue et aimée. C'est le temps des souvenirs, c'est le temps où on va se rappeler le passé.
Oui.
Donc on va rassembler tout ce qui est lié à la perte,
oui.
ou à la perte de la personne aimée.
Oui.
C'est le moment aussi où la personne va exprimer sa peine, où elle va exprimer sa souffrance qui est liée à la perte.
Et c'est bon aussi de donner, c'est bon d'exprimer.
Oui, c'est important de pouvoir l'exprimer. C'est aussi, il y a aussi souvent une alternance tristesse-colère, où la colère est là à la fois pour essayer de restaurer le lien, pour crier l'injustice parfois
oui.
aussi, mais là, une injustice qui voudrait restaurer le lien.
Restaurer un lien perdu.
Restaurer le lien perdu.
La colère a cette fonction-là.
En tout cas, dans le deuil.
Dans le deuil. Hein,
dans le deuil.
On voit justement d'en vouloir à celui être en colère par rapport à celui qui est parti, comme on se sent abandonné quelque part. Ça peut être.
Oui, on se sent abandonné et en même temps, quand on est en colère. On est en lien avec la personne, on exprime la colère contre la personne. Donc c'est une façon
d'être
en lien. Alors, plus le même lien, hein, puisque tout le travail du deuil, ça va être justement de transformer le lien jusqu'à ce que la perte soit complètement élaborée, complètement acceptée. Mais voilà, toutes les émotions de tristesse, de deuil, de révolte, elles participent à cette transformation du lien.
D'accord.
Et puis, en même temps, il va y avoir toute une perte d'intérêt pour tout ce qui est le monde extérieur, pour les activités habituelles, pour les amis. Et finalement, la personne se replie à l'intérieur d'elle-même. Et délaisse tout ce qui est extérieur pour pouvoir effectuer justement ce réaménagement psychique qui est lié à la perte.
Mmh. Il y a un besoin justement dans ce but de réaménager, ce réaménagement psychique. Il y a évidemment un bouleversement, donc il faut retrouver un équilibre.
Voilà, créer un nouvel équilibre.
Ah. Et ça demande, voilà, on a besoin de se retirer pour cela, en soi.
On a besoin de se retirer en soi, de prendre un temps à l'intérieur de soi, en quelque sorte, pour pouvoir faire tout ce travail, parce que finalement, c'est un travail psychique.
Bien sûr.
Et c'est à travers de l'expression des émotions, et notamment de la tristesse, et puis un peu plus tard, de l'acceptation, c'est tout ce travail d'expression de l'émotion, d'acceptation qui va permettre de renouer avec la vie.
Mmh, d'accord. Donc d'acceptation de cette émotion, il faut la
C'est une émotion à exprimer, il faut la vivre.
Oui.
C'est vraiment le temps d'incarnation aussi de la douleur liée à la perte. Et la tristesse, c'est la manifestation de ce vécu-là.
Alors, donc, ça va aussi permettre petit à petit de renouer avec la vie, ce processus.
Voilà, à travers l'expression de la tristesse, une fois qu'on aura évacué toute cette douleur, à travers les larmes, à travers les paroles aussi, eh bien, on va pouvoir renouer progressivement avec la vie.
Alors, donc ça, c'était la tristesse qui est liée à une perte. Hein. Ça, on comprend tout à fait, notamment le deuil. Hein. On a fait une émission sur mardi sur le deuil. C'était tout à fait, voilà, Isabelle exprimait cela hein, dans son vécu, c'est tout cela. Alors, il y a aussi la tristesse, vous disiez, qui est liée au manque. Alors ça, c'est un peu différent quand même.
Oui, c'est différent parce que dans autant le deuil, il y a une perte qui est bien identifiée. Dans le manque, on est plus dans la sensation d'une absence. Et encore qu'il faudrait faire une différence entre l'absence de quelque chose ou l'absence d'une personne. Hein, parce que le manque, il peut concerner une chose, une personne. Donc, il faudrait faire une différence entre l'absence et l'inexistence.
Oui. Alors, c'est-à-dire, donc, manque,
soit une chose est absente,
oui.
Soit elle n'a jamais existé.
Oui, d'accord.
Hein?
Oui.
Et quand on parle du manque, en tout cas, quand une personne parle d'un manque, de ce qu'elle n'a pas, de ce qu'elle n'a pas eu, par exemple, cela, souvent, c'est une tentative de faire réapparaître ce qui est absent.
Ah oui.
De sa conscience et non pas ce qui a été inexistant. C'est-à-dire souvent quand il y a une tristesse liée au manque, c'est pas une tristesse qui est liée à l'inexistant, mais à l'absence.
Mmh.
Et on pourrait dire que plus la tristesse est grande, et finalement moins la personne a conscience de ce qu'elle a perdu.
Ah oui, plus la tristesse est grande,
voilà.
Moins la personne a conscience de ce qu'elle a perdu.
Ah.
C'est-à-dire que pour arriver à la conscience, et pourtant quand on a vraiment perdu vraiment un être cher, par exemple, ça c'est le deuil.
Le deuil et souvent c'est identifié.
Bon, oui. C'est autre chose que je voulais dire.
Mais
oui.
Quand on parle d'un manque,
oui.
Une personne, elle parle en creux, en quelque sorte, ou en négatif, si on prend l'image de la photographie,
oui.
en négatif, soit d'un idéal, soit d'une personne qu'elle aimait, soit d'un rêve, soit de quelque chose qu'elle a connu et qu'elle ne trouve plus aujourd'hui dans sa vie.
Mmh.
Hein?
Oui.
Autrement dit, quand elle parle d'une absence d'un lien,
oui.
Mais il s'agit d'un lien qui a existé et qu'elle a perdu,
oui.
Alors parfois qui peut remonter à la toute petite enfance.
Ah oui.
Et suivant le lien, ça peut être un lien fusionnel, donc ça peut remonter à quelque chose de l'ordre du petit bébé ou du petit enfant.
Archaïque, donc
d'assez archaïque.
Oui.
Ça peut être un lien de possession, ça peut être un lien d'amour qui a été idéalisé. Voilà, mais en tout cas, le manque ou la tristesse qui du manque quand fait référence à un idéal que la réalité actuelle ne peut plus satisfaire, ne peut plus proposer, ne peut plus offrir.
Oui, mais c'est peut-être un idéal qui n'existait pas, enfin qui existait dans son imagination.
Qui est devenu absent. Qui est devenu absent.
Oui.
Rarement qui a été inexistant. Il a eu un moment d'existence.
En tout cas, idéal.
Quand ça se rattache à un idéal, oui. Ça veut dire qu'il y a eu un moment d'existence. Alors, sans doute idéalisé.
Idéalisé, hein, c'est ça.
C'était
donc pas vraiment, oui.
Ça ne correspond pas forcément à la réalité.
Oui. On a idéalisé une personne, voilà. Par exemple.
On a idéalisé une personne. Et cette personne ne peut plus offrir cette attente par rapport à l'idéal.
Oui, oui. Ah. Mmh. Donc là, il y a manque à ce moment-là.
Voilà, il y a manque et tristesse. Avec le manque, une tristesse. Par exemple, quand une personne parle de son père absent, ou du manque de son père absent, elle parle d'un père idéal qu'elle aurait aimé avoir.
Oui.
Et non pas du père réel qu'elle avait. Et donc, et dans ce cas, le manque, c'est en quelque sorte le négatif photo du père
idéal.
Réel. Donc le négatif qui est devenu idéal, du père réel qui, lui, a bien existé et correspondait au côté positif. Et de la même façon, quand une personne parle d'un manque de reconnaissance, eh bien, elle se situe aussi en rapport à une reconnaissance qu'elle aimerait avoir, qu'elle idéalise. Et donc, on voit que quand une personne parle d'un manque, elle parle de quelque chose qui a existé, mais qui est devenu absent de sa vie. Ou en tout cas qui a existé, qui a été idéalisé, et du coup, à travers cette idéalisation, est devenu absent de sa vie.
D'accord. Même si ce n'était pas juste, c'était quelque chose...
Alors, même si ce n'était pas juste...
Mais alors, si la personne en prend conscience, peut-être que ça peut... Elle peut sortir de la tristesse.
Voilà. Et on pourra dire, d'ailleurs, ce qui nous manque, c'est ce qu'on a connu.
Oui, bien sûr.
Sinon, ça ne nous manquerait pas.
Ben oui, bien sûr.
Et c'est là où, quand on parle du manque, on ne parle pas de quelque chose d'inexistant, on parle de quelque chose qu'on a connu et qu'on a perdu.
Voilà. Un grand merci, Pascal Parinet. Donc ce soir, avec vous et nos auditeurs, nous voyons, essayons de voir comment gérer la tristesse. Nous allons écouter, c'est René Aubry qui chante « Regarde les autres ».
Radio Notre-Dame.
De jour.
Voilà, regarde les autres, oui, c'est aussi une façon de soigner sa tristesse.
Oui, de se tourner vers les autres, mais en même temps, on disait, quand on est triste, on est tourné vers l'intérieur.
Ben oui.
Donc, je crois aussi, c'est important d'accepter ce temps où on a besoin de prendre soin de soi.
Mm-hmm.
Voilà, pour pouvoir, après, une fois qu'on a élaboré les pertes, se retourner vers les autres.
Oui, il faut d'abord élaborer la perte.
Ouais.
Hein, c'est un travail avec soi-même.
Oui.
Hein. Alors, vous allez mettre votre casque pour écouter. C'est Albert qui est en ligne. Bonsoir,
oui.
Albert.
Bonsoir, Chantal.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le psychothérapeute.
Bonsoir.
Oui.
Alors,
la
Albert.
Psychanalyse, confession sans solution. Que pensez-vous de ça?
Alors,
psychanalyse.
Confession sans absolution.
Confession sans absolution.
Je trouve d'abord votre question, affirmation, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, intéressante. Voilà, ce sont deux choses complètement différentes. La psychanalyse, le but, c'est de découvrir son inconscient, de prendre conscience de l'impact de notre vie, de tous les processus inconscients, de tout ce qu'on a oublié dans notre histoire. Voilà. Et l'objectif, c'est d'aller mieux. C'est à travers cette prise de conscience de résoudre des conflits intérieurs et d'aller mieux et de pouvoir vivre pleinement sa vie.
Qu'on ne peut pas oublier.
Voilà.
Comment ?
Par exemple, on a des passés, on a le passé qu'on ne peut pas oublier.
Il y a du passé qu'on ne peut pas oublier.
Voilà,
mon premier amour, vous disait, je ne t'aime pas, mais seulement j'ai la pitié pour toi. Peut-on mourir debout et sur place, monsieur le psychothérapeute ?
Oui, alors je réponds quand même à la confession. La confession, c'est complètement autre chose. De la psychanalyse, ça s'occupe pas de tous les processus inconscients qui influencent notre vie. C'est la personne a conscience d'avoir péché, elle va dire son péché, le confesser, se libérer de sa culpabilité et recevoir le pardon de Dieu. Donc ce sont deux choses différentes. Le prêtre, par exemple, ne peut pas explorer les processus inconscients et aider la personne à en prendre conscience, tout comme le psychanalyste ne peut pas donner l'absolution. Vous voyez, on est vraiment dans des domaines et des plans différents. Mmh. Alors après, est-ce que quand une personne nous rejette, est-ce qu'on peut mourir debout? Si vous êtes là pour en parler, ça veut dire que non.
Oui, la réalité, c'est difficile à affronter, monsieur.
La réalité, oui.
La réalité, c'est très difficile à affronter.
Oui, alors on peut symboliquement mourir debout. Mais ça reste symbolique, c'est-à-dire que on peut être tellement meurtri que...
ça équivaut à une mort, intérieure.
À une mort intérieure, à une mort psychique.
Pensez-vous de la pitié ? La pitié est un sentiment que l'homme accepte difficilement, surtout quand il le mérite.
Oui, alors la prochaine fois on fait une émission sur l'orgueil et l'humilité. Alors je pense que la question de la pitié, vous pourrez nous la reposer. La pitié, alors c'est vrai que dans le côté pitié, il y a dans le langage courant, quand on parle de pitié, il y a un côté un peu de condescendance. Moi j'aime mieux le mot compassion, être touché par l'autre. Voilà.
Je vais vous poser ma dernière question.
Oui.
L'amour est-elle un stoïcisme, une vanité, un défi, un courage ou bien encore une fuite devant la vie?
L'amour
est-elle un stoïcisme, une vanité, un défi, un courage ou bien une fuite devant la vie?
Ben, ni l'un ni l'autre. La mort, c'est une réalité de la vie de l'être humain. On sait tous qu'un jour on va mourir, même si on l'oublie dans notre quotidien. Et tant mieux, parce que on ne peut pas penser qu'à ça. Voilà, mais la mort, ça fait partie de la réalité de la vie humaine. Et puis après, chacun fait ce qu'il peut avec cette perspective. Voilà, alors le chrétien a la chance de considérer la mort comme un passage, hein, un passage vers quelque chose de nouveau, vers une vie nouvelle. Voilà, mais ça n'empêche que, quelle que soit la vision, ça fait partie d'une réalité de la vie humaine.
Voilà, Albert, vous avez épuisé vos questions pour aujourd'hui.
Oui.
Bonne soirée.
Merci,
Albert. Bonsoir.
Bonne soirée.
Voilà, alors donc, on va poursuivre un petit peu jusqu'à 23h, et puis nous prendrons une autre auditeur. Donc, on a vu la tristesse liée à la perte, la tristesse liée au manque. Hein.
Voilà, si on reste dans la notion de manque, il y a une autre tristesse qui est liée au manque de lien. Hein. Là, on parlait du manque de personnes, manque d'objets, de reconnaissance, par exemple. Il y a une autre tristesse qui est liée au manque de lien, par exemple, qu'on ressent dans la solitude. Mm-hmm. Quand on est triste parce qu'on est seul, cette tristesse, elle exprime un manque de lien. Mais surtout, alors, toujours pareil, si on regarde dans le côté positif, un besoin ou un désir d'être en lien avec les autres.
Donc, c'est une bonne chose.
Alors, c'est une bonne chose. Et là aussi, finalement, ce manque, il se situe en miroir d'un lien sans doute idéalisé.
Oui, parce que c'est pas
C'est pas la solution absolue à la solitude. D'ailleurs, on peut être au milieu des autres et se sentir seul.
Bien sûr.
Ou être en seul et être quand même se sentir quand même seul. Mais en tout cas, quand on ressent de la tristesse parce qu'on est seul, ça veut dire que quelque part on idéalise en soi on rêve d'un lien idéal qui viendrait combler cette solitude. Mais en même temps, cette tristesse, elle vient remplacer le mouvement naturel qui serait d'aller vers l'autre, serait d'aller chercher, d'aller à la rencontre de l'autre pour justement créer du lien.
Bien sûr.
Et donc, on voit là que la tristesse, elle vient un peu remplacer un mouvement naturel d'aller à la rencontre de l'autre.
Donc oui, il y a quelque chose là qui est à transformer, déjà le voir.
En tout cas, qu'à prendre conscience que si je suis triste parce que je suis seul, c'est parce que j'ai besoin de créer du lien avec d'autres, et à ce moment-là, la solution à ma tristesse, c'est d'aller à la rencontre.
Bien sûr, c'est la solution dans ce cas-là. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des formes de tristesse autres ?
Il y a une tristesse un peu particulière qu'on appelle qui est liée à ce qu'on appelle la confluence en Gestalt thérapie.
C'est-à-dire ?
Par exemple, on la retrouve chez les personnes qui pleurent sans raison et qui disent d'ailleurs « je suis pas triste ». Mais je pleure. Alors, soit parce qu'elles sont touchées par un beau paysage, ou quand elles voient, par exemple, deux personnes s'embrasser au cinéma, enfin, une scène un peu émouvante. Alors, quand c'est très émouvant, c'est normal de pleurer. Mais, en quelque sorte, ces personnes pleurent sans ressentir vraiment de tristesse. face à des situations qui, pour les autres, relèvent plus de la communion, de la joie.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est que la confluence ?
Alors, la confluence, c'est quand il n'y a plus de barrière. On a tous une frontière qui nous sépare des autres. On a mis en place un certain nombre de barrières pour nous séparer des autres, et c'est utile. La confluence, c'est un moment où la personne baisse ses barrières et retrouve une certaine communion, finalement, avec l'environnement.
C'est plutôt bon, ça, non ? C'est positif.
Alors, c'est parfois bon. Par exemple, quand on est amoureux, on est dans la confluence. Quand on est dans la prière aussi, on est dans la confluence. Ça nous permet de communier. Par contre, quand c'est trop fréquent pour la personne, quand c'est à la moindre occasion un petit peu touchante, à ce moment-là, ça devient gênant pour la personne parce que elle pleure très souvent et sans de véritable raison, finalement.
Et c'est parce qu'elle est en communion, en osmose, sans barrière.
Oui, mais alors une communion, alors certaines y voient une expérience spirituelle, alors ça peut être le cas quand on regarde un beau paysage, par exemple, et qu'on sent une communion avec
Dieu. Bien sûr.
Mais voilà, quand on voit deux personnes qui se tiennent la main et que ça vient toucher au point de pleurer, là, c'est pas une expérience spirituelle.
Il s'agit plutôt
d'une expérience de fusion. Et du coup, la tristesse, à ce moment-là, elle n'exprime pas la communion, mais elle exprime une nostalgie par rapport à la perte d'un lien fusionnel. Donc, une nostalgie par rapport à un temps qui date de l'enfance ou de la petite enfance. Et un idéal que la personne aimerait retrouver, mais qui est plus possible en étant adulte.
Oui, c'est ça, bien sûr. Et oui, donc là aussi, c'est un manque à passer, à résoudre une situation du passé qui se manifeste comme ça.
Qui se manifeste à travers un mécanisme de confluence où la personne baisse ses barrières.
Oui, c'est le contraire d'un mécanisme de défense.
Alors, ça fait partie des défenses, parce qu'il y a aussi des bénéfices. Quand on est confluent avec les autres, ils sont gentils avec nous. Ça fait partie des mécanismes de défense.
Quand on est confluent, ça veut dire quand on est
dans une sorte de fusion d'osmose avec l'autre, en tout cas dans l'espoir de ce mécanisme, ça va bien se passer.
Mais c'est provisoire.
C'est provisoire. Et quand c'est trop fréquent, en général, ça finit par agacer l'autre et se passer mal.
Oui, parce que c'est pas juste, c'est pas quelque chose d'ajusté à l'adulte, enfin.
Oui. Ni à l'adulte, ni à la situation, c'est vraiment quelque chose qui intervient quand il y a un peu d'émotion, mais pas au point de baisser toutes ses barrières et de pleurer ou d'être triste.
Un grand merci, Pascal Parinet. Je rappelle le téléphone de nos auditeurs, 01 56 56 44 00. Ce soir, dans cette série de la gestion des émotions, nous parlons de la tristesse. Comment gérer la tristesse ? Nous vous invitons à nous rejoindre et on se retrouve à 23h.
Notre-Dame.
Ecclesia Magazine, Élodie Chapelle.
Vie spirituelle dans les familles, école de prière pour les enfants, semaine d'évangélisation en paroisse, synode, conférences, colloques. Retrouvez la vitalité de l'Église en Ile-de-France tous les jours dans Ecclesia Magazine. Témoignages, reportages. Je vous invite à décrypter l'actualité de l'Église au quotidien. Ecclesia Magazine, c'est du lundi au vendredi à 10h30, 14h30 et 20h.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi, c'est du lundi au vendredi à 6h33 sur Radio Notre-Dame.
La vidéo vous donne rendez-vous sur notre site internet www.radionotredame.com. Vous aimez écouter et réécouter vos émissions? Découvrez-les désormais en images. Du lundi au vendredi, connectez-vous dès 7h30 pour suivre nos matinales, Le Grand Témoin et La Voix est Libre depuis notre studio. Le samedi dès 10h, retrouvez Faustine Fayette en live avec toute l'équipe de mission. La vidéo en direct, c'est du lundi au vendredi de 7h30 à 10h, le samedi de 10h à 11h, sur le www.radionotredame.com.
Écoute dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
En compagnie ce soir de Pascal Parinet, psychanalyste et gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines. Alors, est-ce que dans l'Institut Psychrétien, vous avez quelque chose pour des stages ou pour par rapport à cette émotion particulière qu'est la tristesse ou d'autres émotions d'ailleurs?
Alors oui, ben déjà on a une conférence jeudi prochain, donc jeudi 14 au Centre Trinité sur les phobies. Donc là c'est la peur, c'est pas la tristesse.
Les phobies.
Voilà.
Les phobies, la peur donc.
Le jeudi 14 à 20h30 au Centre Trinité.
Donc c'est le 9e à Paris.
Dans le 9e, oui. Et le 28 novembre sur la dépression. Donc, comment faire face à la dépression? Alors là, on rejoint la tristesse.
Au même endroit?
Au centre, à l'espace Bernanos.
À Bernanos, là, oui.
Donc, qui est 4 rue du Havre, dans le 9e aussi. Mm-hmm. Et c'est à 18h30, là. Donc, le 28 novembre à 18h30, sur la dépression à l'espace Bernanos. Voilà, et puis après, on propose des ateliers d'une journée. Par exemple, le 18 novembre, comment gérer son histoire familiale?
Oui, alors, le 18 novembre, oui.
Voilà, c'est pas forcément la tristesse, oui. Ça peut être des conflits ou d'autres choses. Le 25 novembre, comment gérer le stress et le burn-out? Alors là, il y a de la tristesse en général dans le burn-out, ça rejoint la dépression. Le 2 décembre, comment gérer l'angoisse et la dépression. Le 16 décembre, comment gérer l'échec scolaire d'un enfant. Mmh. Voilà, et puis...
Donc, des situations... voilà, comment gérer certaines situations. Voilà. Que ce soit des émotions ou bien des...
Des situations concrètes. Oui. En général, on fait une petite présentation du thème et après on part des situations concrètes amenées par les participants, justement pour les aider à trouver des pistes de solutions et à résoudre.
D'accord.
Voilà, oui. Le téléphone, je peux peut-être...
Oui, c'est ça, les coordonnées, alors, oui.
Alors... Nous sommes 29 rue de Berne.
Ça y est, maintenant ça y est.
On a déménagé, donc on
29, est oui, c'est ça,
dans 29 rue de Berne dans le 8e.
C'est vers Saint-Lazare. Hein.
C'est derrière Saint-Lazare. Et le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60. 06 60 15 79 60. Le téléphone n'a pas changé.
D'accord. Et puis, l'adresse,
voilà,
le site.
Alors, psy, en tapant psychrétien.com sur Internet, on arrive sur notre site.
Voilà. Donc, psychrétien.com. Psychrétien au singulier.
Au singulier, oui.
Voilà. Donc, ce soir, eh bien, comment gérer la tristesse? On écoute Geneviève qui est en ligne. Bonsoir Geneviève.
Bonsoir Chantal.
Bonsoir.
Bonsoir monsieur. Chantal, je suis une amie d'Elisabeth.
D'Elisabeth.
Des pèlerins d'Ovide.
Ah oui, des pèlerins. Oui, Elisabeth, bien sûr. Oui, des pèlerins d'Ovide. D'accord, en disant les pèlerins.
Ça, je me permets de me présenter comme ça aussi.
D'accord.
Mais enfin, c'est pas mon problème, mais j'y vais pour les autres.
D'accord.
Comment je veux dire? Bon, alors moi, je vais vous raconter. J'ai perdu mon ami il y a 14 ans. Il était par terre quand je suis rentrée de travailler. Donc, j'ai eu les pompiers, le SAMU, les motards, enfin bref. J'étais dans tous mes états. Bon. Et puis, le professeur m'a appelé le lendemain. Il m'a dit, madame, faut qu'il passe 12 jours. Et puis, vous savez comment ils sont, ils vous préparent. Et de 12 jours, il m'a dit, c'est fini.
Ouais.
Et ça a duré 6 jours. Alors là, j'ai fait une grosse déprime. C'est-à-dire que la déprime, là, j'avais un peu, tenu, hein, parce que j'ai l'habitude d'avoir des médicaments déjà pour la dépression. Et mon patron m'a dit que j'étais folle, mais entre quatre yeux. Donc, je n'avais pas de témoin pour aller au prud'homme. Donc, je suis partie comme ça de mon travail, 4 ans avant ma retraite. Donc, j'ai ma retraite de diminuer, évidemment. Et alors là, j'ai fait une grosse déprime, hospitalisation, psychiatre et autres. Et depuis, je suis toujours... en pleurs souvent, et puis pourtant, et je me raccroche simplement et je me retiens de pleurer devant mes petits-enfants.
Ouais.
C'est le seul lien qui me tient, mes petits-enfants et ma fille.
Mmh. Ouais,
mais c'est très très dur de vivre seule et de savoir. Et là, je viens de déménager et j'ai pas vu en déménageant que j'étais à côté du cimetière.
Mmh.
Alors, ça me fait d'autant plus mal. Pourtant, je suis avec lui, à côté de lui, mais je ne peux pas aller, du fait de mes genoux que j'ai des malades, je ne peux pas aller jusqu'à la tombe pour que j'attende que ma fille puisse m'emmener en voiture.
Voilà, mais peut-être...
Alors, voyez, ça a été que des primes. Parents, ma mère est partie, j'avais 7 ans. Mon père s'est suicidé, j'en avais 18. Enfin, bref, j'ai eu une vie très dure.
Oui, ça fait beaucoup de chocs, hein, beaucoup de...
Ça fait beaucoup de chocs, mais disons que je me fais suivre régulièrement.
Ouais.
Mais là, ce soir, je trouvais que c'était une émission où je pouvais un peu parler.
Ouais.
Et parler, ça fait du bien, je trouve.
Tout à fait, oui. Ouais.
Parce que j'ai déménagé, je connais personne, quoi.
À la fois pleurer soulage... Mais c'est ce qu'on va en parler après.
Faut pas que ça soit de trop.
Voilà, et faut pas s'enfermer dans les larmes, et surtout faut pleurer avec quelqu'un. C'est-à-dire faut pleurer en pouvant mettre des mots, en pouvant dire sa peine à quelqu'un, de façon à pas s'enfermer dans la tristesse, mais voilà.
La sortir un peu en l'exprimant.
Voilà, en la fois en l'exprimant par les larmes, mais surtout en mettant des mots dessus, voilà, ça permet de s'en libérer.
Oui, oui. Vous savez, ce qui me remonte de temps en temps, c'est d'écouter Radio Notre-Dame.
Oui.
Alors ça, je peux vous dire que le soir, elle est allumée et le matin, elle marche toute la nuit parce que quand je me réveille, que j'ai un moment où je me réveille dans la nuit, eh ben, j'écoute Notre-Dame.
Voilà.
Ça vous tient.
Et ça me permet de me rendormir.
Oui.
Ben voilà,
j'arrive à trouver des choses.
Des choses qui vous aident et, oui, et vos petits-enfants.
Qui me conviennent et qui ne sont pas dures à faire.
Oui, oui. Et vos petits-enfants aussi, j'ai entendu que c'était important pour vous.
Oui, mes petits-enfants viennent, enfin, tout ça. Ouais.
Ça peut vous sortir, ça, de vous, peut-être
Je ne peux pas trop sortir.
Non, mais sortir de vous-même.
Ah, de moi-même, oui. Oui, 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 j'ai bien compris, parce que malheureusement, je ne peux plus... je faisais des travaux à la paroisse, à mon ancienne paroisse, je me suis dit, et je ne pouvais même plus le faire, parce que ce qu'ils me demandaient, c'était de porter le courrier le soir, et ça, je ne pouvais pas le faire pour marcher. Mmh. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Et puis, ça me touche aussi parce que j'étais une fille qui était très, très active. Donc là, je me sens très diminuée.
Oui.
Donc, mais je prends un peu, ça, je le prends plus facilement. Je sais que c'est comme ça, en vieillissant, on a des fois des coups de... Et ça, on n'y peut rien.
Oui.
Voilà.
Et en même temps, on peut agir différemment, on peut agir par le cœur, par le téléphone.
Oui, bien sûr. Oh, bah, et puis, j'ai une personne du groupe là, des pèlerins de l'eau vive qui vient me voir tous les samedis pour me raconter, puisque je ne peux plus y aller, qui vient me raconter, me donner des nouvelles de tout le groupe. Alors, on boit un café, on discute, on fait une partie de Scrabble. Bon, bah, je sais que mon petit samedi dans la soirée, je sais que c'est pris, je l'attends avec impatience.
Voilà.
Oui. Voilà. Bon, voilà, Geneviève, vous allez trouver des choses qui peuvent...
Bah, je trouve quand même, de trouver. Mmh. J'essaye, Chantal, de trouver des petites choses que j'apprécie en plus. C'est des petites choses, mais je les apprécie.
Oui, mais vous savez, là, souvent le bonheur, ça vient avec...
une aide ménagère qui est à mes petits soins.
Ben voilà, vous voyez, c'est toutes les bonnes choses. On peut rendre grâce.
Il y a des choses quand
rendre grâce pour ça,
positif.
Oui.
Il ne faut pas toujours penser au négatif.
Mais nous, puis rendre grâce pour justement ces choses positives-là.
Et les multiplier.
Oui.
Souvent, on croit que le bonheur, c'est une grande chose ou... Mais très souvent, pour la majorité des gens, c'est une multitude de petites choses. Mais toutes ces petites choses-là, c'est un peu comme les petits ruisseaux qui font le grand fleuve.
Il ne faut pas vouloir un grand bonheur tout de suite. Hein.
Voilà.
De toute façon, grand bonheur, je ne sais pas si vraiment...
Bah, de toute façon,
on peut avoir un grand bonheur.
Voilà, mais d'essayer...
Mais il vaut mieux prendre des petites choses et se trouver... Les petites choses font un grand bonheur.
Voilà.
Ben oui, puis rendre grâce, je ne sais pas, être voir, voilà, c'est...
Et multiplier.
Mais ça m'a permis de me débarrasser un petit peu et de parler avec vous, ça m'a fait énormément de bien.
Ben voilà, si ça vous a...
Ça fait plusieurs fois. Hier soir, je voulais vous appeler justement sur l'émission d'hier soir et je me suis trompée de numéro de téléphone.
Ben voilà, aujourd'hui, là, c'est le bon, ce soir.
Bon,
et il faut voir ça aussi positivement.
Oui. J'écoute souvent l'émission du monsieur.
Voilà,
pratiquement tout le temps quand il est là.
Voilà,
je vais pas...
Mais prenez courage et puis voilà, des choses comme ça qui peuvent être...
Je vous remercie Chantal. Bonne soirée, bonne fin d'émission. Et puis,
bon courage à vous Geneviève. Hein?
Oui.
Bonsoir.
Je prie pour vous aussi.
Merci. Merci. Voilà. On va écouter, je crois que c'est Martine qui est en ligne là maintenant. Bonsoir Martine.
Bonsoir. Bonsoir Chantal, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Voilà, c'est pour essayer d'approfondir la tristesse que j'ai.
Oui.
Que j'ai des fois par moments où je pleure alors que je devrais être joyeuse et puis qui me fait comme si ça me faisait un bien de pleurer. Quand je rencontre par exemple une personne que j'ai plus vue depuis un certain temps, qui fait partie un peu de ma famille, tout ça, quand je raconte sur elle ou n'importe, j'ai toujours envie de pleurer.
Mmh.
Et je suis, je suis assez émotive. Et puis j'ai dit à consulter un psychologue qui m'a dit que j'étais bipolaire.
Oui. Alors, si vous voulez, le fait d'être bipolaire, bah, ça renforce la sensibilité. Après, ce que vous décrivez, c'est quand vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, finalement, quelqu'un de votre famille. Ce que vous décrivez, c'est de l'ordre de la confluence, c'est-à-dire que vous refusionnez avec cette personne et du coup, ça, bah, à travers la fusion, il y a la nostalgie.
Je vous entends pas très bien.
Oui, à travers ce fusionnement, cette symbiose avec la personne, il y a la nostalgie d'une fusion passée qui revient.
Oui.
Voilà, je crois, peut-être vous pouvez déjà accepter cette sensibilité-là, et puis après voir comment vous pouvez mettre un peu plus de distance, de frontières entre vous et l'autre, entre vous et l'environnement.
Oui.
D'essayer de garder la distance. Alors ça n'empêche pas d'aimer les autres, mais de pas fusionner systématiquement.
Oui. Mmh. Est-ce que ça peut venir aussi du fait que j'ai eu une enfance assez malheureuse et puis que je suis souvent triste.
Ça peut être lié, oui, mais c'est plus tel que vous le décrivez, c'est plus ou un mécanisme du genre que je décrivais tout à l'heure, donc lié à la fusion, ou lié à l'aspect bipolaire. Voilà, mais je crois que ce qui est important, c'est d'apprendre à repérer les situations où ça se produit. Et puis, plus vous serez consciente dans quelle situation ça se produit, comment ça se passe, plus vous pourrez le gérer, mettre un peu de distance par rapport à cette tristesse.
Voilà, par la prise
d'accord.
de conscience. La Martine.
D'accord, ben je vous remercie beaucoup.
De rien.
Merci à vous aussi.
Je vous souhaite une bonne soirée, puis à bientôt.
Bonsoir.
À bientôt, au revoir Martine.
Au revoir.
Bonsoir.
Alors nous allons poursuivre un petit peu, Pascal Pariné. Il y avait cette tristesse-là liée à la confluence, hein,
voilà.
Parce que c'est un peu ça aussi,
oui.
Vous disiez. Et donc la confluence, c'est lié aussi à la fusion, d'osmose.
La fusion, on disait que c'était un peu la nostalgie par rapport à la perte d'un lien fusionnel, alors qui date de l'enfance, donc une nostalgie par rapport à un temps passé, que la personne aimerait retrouver, qu'elle retrouve un peu quand même dans ces moments de fusion. Mais ça réveille plutôt la nostalgie et la tristesse d'un temps qui n'existe plus, en fait.
Et puis qui est en fait pas très juste parce que c'est passager.
Alors, pas juste parce que ça correspond plus, la personne en face a pas forcément envie de fusionner, par exemple. Donc ça ne correspond plus à la situation présente.
Alors, il y a la tristesse aussi qui est une autre tristesse qui est liée à la finitude.
Oui, mais finalement, quand on regarde toutes ces tristesses-là, elles sont un peu liées à la finitude.
Oui, elles renvoient à ça, oui.
Oui, on est triste quand une situation s'arrête, ça c'est la perte. Ou quand elle s'est arrêtée dans le passé, c'est le manque. Mais dans ce cas-là, on en garde la nostalgie.
Oui.
Ce qui fait que la tristesse, finalement, c'est un peu l'expression du sentiment de finitude. Et en même temps, le moyen de la gérer.
Oui.
Hein, c'est-à-dire, c'est à la fois, on ressent la finitude et ça nous rend triste.
Oui.
Mais en exprimant la tristesse, c'est aussi le moyen de gérer cette finitude. Alors, en même temps, ça concerne une finitude par rapport à des situations appréciées ou aimées, parce que quand quelque chose de désagréable s'arrête,
au contraire.
On est plutôt content.
Oui.
Alors, Ça veut dire que la tristesse, c'est le signe ou l'empreinte ou la marque que produit un arrêt dû à des circonstances en lien soit avec, avec l'amour, alors l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour d'un objet, l'amour d'une situation. Mais on voit que la tristesse, elle est toujours liée aux limites, à l'arrêt, donc à la finitude de quelque chose, d'un lien d'amour.
Oui. Hein. Oui.
Et pourtant, ce n'est pas vraiment un arrêt, c'est une transformation. Et la tristesse, elle vise au contraire à réintégrer ce qui est perdu à l'extérieur.
Mm-hmm.
Et quand on
perd... Le réintégrer en soi,
oui. Mm. Quand on perd une relation, que ce soit une personne, un objet, une situation, la tristesse est ce qui participe à l'intégration intérieure de cette relation.
Ah oui.
Et du coup à sa transformation.
Mm-hmm.
On voit ça dans le deuil, quand on perd une personne qu'on aime, on la perd à l'extérieur de nous.
Mais elle continue à vivre.
Alors, à travers le deuil, à travers l'expression de la tristesse, on l'intériorise. Et elle va vivre en nous, dans notre cœur. Et donc, toute l'expression de la tristesse, c'est de nous aider à la retrouver. La tristesse exprime la perte extérieure, mais elle nous aide aussi à l'intérioriser et à la faire vivre dans notre cœur.
Donc, elle a un bon côté, puisqu'elle permet la transformation.
Oui. Oui, mais bien sûr, elle a un bon côté, mais
toutes nos
émotions, finalement, sont bonnes.
À condition qu'elles permettent une élaboration, pas de s'y complaire et de rester.
Voilà, à condition qu'elles ne soient ni chroniques, c'est-à-dire soit qu'on se trouve bloqué dans la tristesse, ni trop intenses, et à ce moment-là qu'on n'arrive plus du tout à la gérer.
Mm. Hein.
Mais si elle n'est ni trop intense et du coup qu'elle envahit, encore que dans un deuil, elle peut envahir pendant quelque temps et puis après ça rediminue.
Oui, bien sûr. Hein?
Mais tant qu'on ne reste pas enfermé dans la tristesse, à ce moment-là, elle est positive.
Un grand merci, Pascal Parinet. Donc ce soir, nous parlons de la gestion de la tristesse, comment gérer la tristesse, et le téléphone pour nous rejoindre, 01 56 2 x 44 00. On se retrouve dans quelques instants.
Chaque semaine, dans Et Dieu dans tout ça, James Combépine nous propose de partir à la rencontre d'une personne, qu'elle soit croyante ou incroyante, pour aborder ensemble son rapport à l'homme, à la vie, à la spiritualité et à Dieu. Et Dieu dans tout ça, tous les vendredis à 21h et le samedi à 8h03 sur Radio Notre-Dame.
Cette semaine, James Combépine s'entretient avec Virginie Linhart, docteur en sociologie politique. La Bible, pas à pas.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne. Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine, pas à pas, sur le chemin de la Bible?
Ok. Mais pourquoi faire?
Pour y ramasser des petits cailloux blancs. L'idée, c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique.
Ah, comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse.
Ou même les lions du prophète Daniel.
Et tu nous aideras ainsi à comprendre les Écritures.
C'est ça.
La Bible, pas à pas, avec Jocelyne et Étienne Tarnot. Tous les dimanches à 10h30 sur Radio Notre-Dame. En marche vers dimanche.
Bonjour, c'est Marie-Noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
En marche vers dimanche, avec Marie-Noël Tabu, du mardi au vendredi à 11h03, sur Radio Notre-Dame.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Vous nous écoutez depuis longtemps et vous repoussez toujours le moment de vous engager financièrement à nos côtés. Sachez que si nous pouvons produire toutes ces émissions et diffuser ces programmes, c'est grâce à tous ces auditeurs qui nous soutiennent. Vous aussi, devenez des acteurs de Radio Notre-Dame en nous apportant votre soutien financier au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e et sur notre site internet bien sûr.
Radio Notre-Dame.
Voilà donc ce soir avec Pascal Parinet, comment gérer la tristesse. Nous allons écouter tout de suite, c'est Marine qui est en ligne.
Bonsoir Chantal, bonsoir Pascal.
Bonsoir Marine.
Voilà, je voulais vous demander quelque chose pour les relations quand il y a un manque, vous savez, après... Pas une rupture, mais quand il y a des difficultés, par exemple dans une relation, parce qu'on est loin, des obstacles à surmonter, alors qu'on fusionne, alors que tout est fait pour que tout se passe bien. Mais il y a un obstacle qui va faire que il y aura une des deux personnes qui va se détacher ou peut-être moins lutter quoi pour garder la relation comme elle est et ça rend très triste. Bon, moi par exemple c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui m'arrive. Je suis pas quelqu'un qu'on appelle comme dans les relations qui est raisonnable, qui c'est pour moi c'est la fusion c'est vraiment important parce que je suis artiste déjà et puis je me dis que quand on est avec une personne, des fois c'est rare. On rencontre pas tous les jours une personne avec qui on fusionne. Voilà. On rencontre. Moi, je suis dans la communication, je rencontre beaucoup de gens. Et pour dire la vérité, je n'ai pratiquement pas d'écho avec très peu de gens. Alors quand j'ai un écho, c'est très puissant parce que c'est rare. Donc on aime la personne. Et si jamais ça s'arrête, alors le monde s'écroule. Ouais. Nos pieds, on est dévastés. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps. Et ça m'arrivait à 16 ans, à 17 ans, 18 ans, et à 40, ça m'arrive encore. Et du coup, je suis toujours pas avec une personne encore. Mais là, j'étais avec une personne qui veut refaire sa vie et qui croit, mais qui a beaucoup de soucis des relations passées, vous voyez ?
Ouais.
Donc, je voulais savoir votre avis. Comment on peut reconstruire ? Parce que mon but maintenant, c'est simplement reconstruire ce qui a été un peu défait, voilà. Mmh. Parce que ça rend très triste, quoi. On ne peut même plus vivre, quoi. On se sent... voilà. Vous voyez ?
Oui. Oui, je comprends bien. Alors, il y a deux solutions. Il y a une solution qui reste dans la fusion, mais la fusion, ça ne dure pas.
Ouais, c'est ça, ouais,
c'est. Surtout que vous parlez presque plus de passion que de fusion. Du coup, y a une solution, c'est de passer de passion en passion. Mais parce que ça dure pas. Ou il y a une autre solution qui est de transformer la relation. C'est-à-dire que, quand ça défusionne, d'accepter que ça défusionne, mais donc d'accepter cette transformation de la relation et de trouver un autre mode de relation qui peut être tout aussi agréable, qui est plus dans la fusion, mais qui est peut-être moins dans la passion, mais qui va être plus léger que la passion et tout aussi agréable différemment. Ça, c'est différent, mais agréable aussi.
Mais pour vivre, pour être avec quelqu'un, je veux dire, pour vivre une vie ensemble, en couple, il faut qu'il y ait cette espèce de magie, vous voyez, ce sentiment qui est juste exceptionnel, qu'on n'a pas avec tout le monde, on l'a avec une personne, vous voyez.
Oui.
Et on peut avancer. Moi, par exemple, j'ai plus mes parents, donc c'est très important que je m'établisse sur un socle, vous voyez, sentimental, quoi.
Oui, mais pas forcément dans la fusion. Il peut y avoir un socle tout aussi solide dans une relation qui n'est pas passionnelle.
Oui.
Hein? Et sans doute plus solide, parce que le problème de la passion, c'est les effets élastiques, quoi. On se rapproche autant qu'on s'éloigne, et enfin, ça fait un peu du yo-yo. Alors que quand c'est vraiment dans la relation duelle, en quelque sorte, à ce moment-là, ou d'altérité, on peut avoir un socle très solide, un amour tout aussi enraciné, mais peut-être moins passionnel, mais tout aussi profond.
Et durable.
Et durable, oui.
Ouais, Mais pour que ce soit durable, il faut qu'il y ait quelque chose de... Enfin, là, c'est peut-être
de l'amour.
L'ami qui n'y croit pas trop, en fait, quelque part, qui n'y croit plus, peut-être. Parce que moi, j'y crois parce que je suis plus positive, quoi, vous voyez, je prie plus, je suis plus dans la... au diapason, quoi, vous voyez, avec les sentiments, les grands sentiments. Ouais. Et lui, il ne croit peut-être pas assez, quoi, aussi, c'est ça, hein.
Alors, c'est possible.
Il voudrait croire, parce qu'en fait, il en a envie, mais après, au bout d'un moment, même pour les activités qu'il veut faire, il dit, oh, il faut rêver, je rêve à ça. Et puis après, il dit, mais non, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Vous voyez, comme si quelqu'un qui veut détruire, qui détruit... Il rêve, mais il va détruire ce rêve parce qu'il a peur que ça ne va pas se réaliser, qu'il croit que c'est pas possible, alors que c'est possible avec la persévérance et avec la patience et avec l'amour du projet, quoi. Et puis le soutien de l'autre, quoi. Parce que si on est avec quelqu'un qui nous soutient...
Oui, c'est... Alors, ce que vous dites est vrai, mais peut-être il a une peur à s'engager.
Non, c'est parce qu'il a été déjà marié, quoi. Il est divorcé. Voilà. Et donc, il a vécu peut-être des choses que... Bon, il parle pas beaucoup, vous voyez, il parle pas beaucoup. Ouais. Mais
du coup, peut-être ça lui fait peur de s'engager à nouveau dans la durée, ou en tout cas dans le mariage en tant qu'institution.
Non, il me dit que je suis trop bien pour lui, par exemple, vous voyez. Ouais. Alors je dis, non, mais est-ce que tu vas devenir bien aussi? On a tous des défauts, on a tous des qualités, et si on aime quelqu'un, on l'aide à corriger son défaut. Et vice-versa. Enfin, je veux dire, moi, je vois ça comme ça, un peu. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que la fusion, elle est importante, parce que dès qu'on n'est plus avec l'autre, on n'a plus la même motivation pour faire les choses, vous voyez. Sauf si on reste dans un truc individuel et tout, mais je supporte pas ça, le truc individuel. Vous voyez,
mais peut-être vous confondez... l'amour et l'individualisme.
Oui.
C'est pas la même chose. Alors la fusion, c'est le moment de l'accroche. C'est quand on est amoureux, il y a la fusion, c'est ce qui permet l'accroche. Mais ça a aussi besoin de se transformer pour grandir ensemble.
Oui.
Si on reste que dans la fusion, il y a pas de possibilité de croissance.
Oui, parce que là, il a voulu décrocher un peu parce qu'il avait des problèmes, des problèmes financiers. Et il se disait, comme moi, je suis dans le nord et lui, il est dans le sud, il habite dans le sud, mais moi, on s'est rencontrés dans la montagne. Là, je vais y retourner. Justement, je vais lui envoyer un mot pour lui dire de revenir me retrouver parce qu'il dit que c'est plus près que Paris. Et donc, je me dis... Mais il faut, ça va se transformer là, parce qu'il avait ses trucs à régler. Mais une fois que ça va être réglé, qu'on puisse à nouveau, vous voyez.
Oui, peut-être faut lui laisser un peu de temps.
Pour réaliser, parce qu'il m'a dit, je t'aimerai toujours. Je te dis que je veux plus qu'on se parle parce que j'ai trop de trucs à régler et tout.
Ouais.
Et puis, mais en même temps, il est prêt à aller avec quelqu'un d'autre, quoi, vous voyez. Donc, c'est pas non plus tout à fait, c'est un peu bizarre, quoi, vous voyez, parce que c'est plus facile dans son coin que de venir à Paris ou de venir, vous voyez.
Ouais. Il y a aussi toutes les circonstances géographiques, problème d'argent ou autre qui sans doute le freine. Enfin, et voilà, il y a tous ces aspects-là à prendre en compte aussi.
Moi, j'ai toujours été avec des amis qui étaient loin. Voilà, c'est un peu curieux, mais ceux que j'aimais le plus, ils étaient loin. C'est très, très curieux. Et même très loin. Aux États-Unis, en Israël, vous voyez, et ils essayaient tous de tout faire pour qu'on se rapproche, quoi. Vous voyez, on se rapprochait.
Ouais. Je sais pas, faudrait prendre du temps pour en parler, mais là, on n'a pas besoin.
Oui, c'est ça. Bon, bah, écoutez.
J'arrive pas à concevoir et je persiste, quoi. Il y en a qui me disent, mais laisse tomber, et j'arrive pas à laisser tomber. Et je sais pas comment vous expliquer. Je me dis, si on s'est rencontrés, c'est pas par hasard, ça m'arrive très rarement de rencontrer quelqu'un que j'aime. Alors quand je l'aime, j'aime très fort, vous voyez.
Ouais, je comprends,
Je passe au-dessus des obstacles, vous voyez.
Oui, mais voilà, il y a tout un chemin aussi intérieur.
Voilà, et en même temps, comme vous dites, ce sont souvent des personnes très loin, et ça crée aussi des obstacles, et... Voilà, c'est...
Oui, c'est... Voilà, il faut peut-être s'interroger sur ça aussi. Enfin,
je
pense,
il y a
tout un travail à faire par rapport à ça. En tout cas, Marine, voilà, essayez de voir comment, par rapport à vous-même, hein, ce travail...
Oui, à la fois de regarder, de vous poser la question, qu'est-ce qui fait que finalement... même si c'est pas tous les hommes et que c'est assez rare que vous tombiez complètement amoureuse, mais pourquoi pas près de chez vous, ce qui serait plus facile.
Ouais, mais et... non.
Mais oui, pourquoi
on choisit pas des fois. C'est,
ouais.
c'est, voyez,
oui.
c'est des hasards. On dit qu'il y a pas de hasard, donc des fois il y a des personnes. On a un travail à faire avec. Et moi, j'ai réussi à faire un travail avec. Depuis que je le connais, j'ai réussi à réussir deux choses importantes qui étaient un peu dures pour moi. Et lui, il doit les réussir. Et lui aussi, il a deux choses importantes à réussir. Il faut qu'il les réussisse. Mais je me demande s'il n'est pas bipolaire. Qu'est-ce que vous entendez par bipolaire? Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, mais je ne comprends pas très bien à quoi ça correspond. Ça veut dire qu'on passe...
C'est pas tout à fait clair. Enfin, la notion de bipolarité s'est beaucoup élargie ces dernières années. En fait, c'est quelqu'un qui passe par des phases et dépressives et maniaques, donc d'excitation, donc qui a des alternances, mais qui peuvent être très éloignées de périodes dépressives et de périodes d'excitation.
D'optimisme ou des choses comme ça.
Voilà, pas... Oui.
Ben voilà, essayez de voir tout cela, Marine, de réfléchir
ouais,
et puis...
D'accord. Non,
courage.
Parce que c'est vrai que c'est triste, quoi. Je me dis, ça pourrait, c'est tellement bien quand on avance ensemble que c'est tellement
oui,
sympa,
ça, c'est sûr,
tellement
mais...
bien que je me dis, je sais pas quel est le secret, quoi. Peut-être que vous l'avez, je sais pas.
Peut-être un peu de patience aussi,
oui.
Vous voyez.
Essayez de voir tout cela. En tout cas, courage, et puis, voilà, merci d'avoir appelé.
Je veux dire, ça rend très triste. Et il n'y a pas que moi, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, parce qu'il y a des fois, j'ai une amie, moi, par exemple, qui m'a avoué, elle vit avec quelqu'un depuis longtemps, depuis 20 ans, elle même a un fils avec, et elle me dit, je ne suis plus amoureuse de mon compagnon. Je ne suis plus amoureuse, je vis avec, comme ça. Et comme vous dites, ça se transforme, mais des fois, ça peut se transformer en amour profond. Vous voyez, pas en...
Ouais,
pas en indifférence, oui,
voilà.
ça dépend. Oh, voilà. Il y a tout un travail qui doit s'élaborer. Ouais. En tout cas, merci de votre intervention, Marine. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va poursuivre un petit peu Pascal Parinet, toujours dans ses tristesses. Il y en a qui sont passagères, il y en a qui sont chroniques. Alors, ça n'est pas pareil.
Voilà, oui, bah, la tristesse passagère, c'est quelque chose de sain. C'est ce qui nous permet d'élaborer la perte, d'intégrer les limites de la réalité, de la finitude. Alors là, son intensité et sa durée, ben bien sûr, elle va être proportionnelle à l'investissement qu'on avait dans la relation. Et ça, il n'y a pas de règle. On ne peut pas dire ça doit durer tant de temps, ni sur la forme de la tristesse. Ça va varier avec chaque personne, chaque situation. Alors, même si, quand même, on a quand même des repères, voilà, on sait qu'un deuil classique, c'est de l'ordre entre deux années, à peu près. Voilà, donc, il y a un peu de repères. Et en même temps, je crois que c'est important on parlait de l'espérance tout à l'heure, c'est aussi ce qui nous permet de renouer des liens. Et elle intervient dans la balance par rapport à la perte.
Hein? Oui.
La perte, on perd un lien et l'espoir de pouvoir renouer des liens.
Oui.
Ou l'espérance en la vie éternelle aussi, quand c'est un deuil. Ça donne l'espérance de pouvoir recréer des liens. Et donc, ça vient en quelque sorte contrebalancer la perte
et
du
la
coup,
tristesse.
La tristesse aussi. Mm-hmm. Alors, quand est-ce que ça devient anormal
finalement? Quand est-ce que ça devient anormal
Ça devient anormal quand c'est disproportionné par rapport à l'enjeu. Et là, ça veut dire que c'est pas, il y a quelque chose qui va pas. Ou quand ça devient chronique. Et là, Donc si c'est disproportionné, c'est, il se passe autre chose. Enfin, ça ne correspond pas à ce qui se passe. Si c'est chronique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été élaboré et la personne reste enfermée finalement dans cette tristesse. Ça veut dire que dans ces deux cas-là, ben, la tristesse exprime quelque chose de plus profond en la personne que l'événement qu'elle est en train de vivre.
Alors, ça fait apparaître le lien finalement entre aussi tristesse, dépression et mélancolie, puisque
on peut dire. Et on pourrait dire que quand soit l'intensité, soit la durée n'est pas en correspondance avec le type de perte subie, à ce moment-là, c'est le signe d'une dépression.
Oui.
Alors, par exemple, quand une personne n'a pas de problème particulier dans sa vie et qu'elle ressent de la tristesse très souvent, qu'elle pleure régulièrement, ça veut dire qu'elle est en train de sombrer en dépression ou qu'elle est en dépression masquée.
Oui.
Si une personne s'effondre aussi après un échec professionnel, scolaire, amoureux,
ça rejoint aussi un problème profond.
Un problème plus profond et c'est un signe avant-coureur de, enfin, quand elle s'effondre vraiment, c'est déjà la dépression. Quand il y a un manque d'entrain, de désir dans la vie, que la personne symptomatise, qu'il y a un fond de tristesse, mais pas vraiment exprimé, c'est le signe d'une dépression masquée. Et puis, quand il y a une véritable dépression, finalement, le manque d'envie, le repli sur soi, l'autocritique, la dépréciation, En sachant qu'il y a différents types de dépression, il y a des dépressions liées aux événements. On fait un deuil, mais difficile, et il y a la dépression. Des dépressions existentielles et des dépressions structurelles, comme les troubles bipolaires, la maniaco-dépression.
Voilà, ça en a parlé un peu tout à l'heure. Voilà, merci Pascal Parinet. On va se retrouver dans quelques instants. Nous écoutons tout de suite, c'est Carla Bruni qui chante « Tout le monde ».
Radio Notre-Dame.
Tout le monde est une drôle de personne, et tout le monde a la main mêlée. Tout le monde a l'enfance qui ronronne d'une poche oubliée. Tout le monde a des restes de rêves et des coins de vie dévastés. Tout le monde a cherché quelque chose un jour, mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Il faudrait que tout le monde réclame auprès des autorités une loi contre toute notre solitude, que personne ne soit oublié et que personne ne soit oublié. Tout le monde a une seule vie qui passe, mais tout le monde ne s'en souvient pas. J'en vois qui la plie, même qui la casse, et j'en vois qui ne la voit même pas. Et j'en vois qui la voit même pas. Thank you. Il faudrait que tout le monde réclame auprès des autorités une loi contre toute notre indifférence, que personne ne soit oublié et que personne ne soit oublié. Est une drôle de personne et tout le monde a une âme emmêlée. Tout le monde a de l'enfance qui résonne au fond d'une heure oubliée. Au fond d'une heure oubliée.
C'était Carla Bruni, Tout le monde. Alors, tout le monde, j'espère, n'est pas triste. Et, en tout cas, comment gérer la tristesse, Pascal Parigny, on va arriver à la gestion de la tristesse maintenant, parce que c'est important. Ouais. On entend les différentes formes, mais comment la gérer? Parce que ça, c'est une capitale, hein, c'est ce qu'on attend.
Voilà, la première des choses, c'est de l'accueillir, alors comme toutes les émotions.
Alors, accueillir, oui.
Mais c'est important parce que sinon, la tristesse va s'emmagasiner, s'accumuler jusqu'à devenir un poison dans la vie de la personne.
Oui.
Et donc, ça veut dire que quand on a envie de pleurer, c'est normal de le faire, y compris pour les hommes.
Ah oui, oui, aussi.
Les hommes aussi ont droit de pleurer. Toute personne a droit d'être triste et de pleurer. Alors, accueillir, ça veut dire aussi prendre conscience de sa tristesse, des sensations qu'on ressent, et surtout de faire le lien entre ces sensations et le fait d'être triste.
Oui. Hein.
Souvent, les personnes qui accueillent ont du mal à faire le lien entre ce qu'elles ressentent et le fait d'être triste, de reconnaître qu'elles sont tristes, tout simplement.
Donc, il faut le reconnaître, hein, c'est ça,
ouais.
et l'exprimer.
Et l'exprimer, alors le meilleur moyen pour l'exprimer, c'est de trouver une bonne épaule, finalement.
Oui, qui va pouvoir vous écouter et comprendre.
Voilà, qui pourra écouter cette tristesse, sur qui on peut s'appuyer dans une période de tristesse, qui juge pas, mais qui accueille.
Qui accueille, justement, oui.
Qui soutient aussi pendant ces moments. Il y a beaucoup de personnes qui disent que quand elles sont seules, elles pleurent, par exemple. Alors, c'est déjà important de pouvoir le faire. Mais c'est pas la même chose que de partager sa tristesse avec un ami qui comprend.
Mmh.
Hein. Et je crois que c'est important de pouvoir la partager à quelqu'un.
Parce qu'on dit des mots à ce moment-là.
Voilà.
Hein, autrement, c'est simplement les larmes. Oui, d'accord, ça fait du bien.
Voilà.
Mais il faut pouvoir mettre des mots aussi.
Oui. Hein, et ça, c'est important, d'où la nécessité de le dire à quelqu'un.
Oui, alors justement, oui, c'est ça. Quelle est cette aide que l'ami peut apporter par sa présence, son écoute?
Il va écouter les paroles, alors il va accueillir les larmes, il va accueillir toute l'émotion, mais surtout il va accueillir les paroles, et les mots, les paroles, le langage, c'est ce qui va permettre d'élaborer la tristesse.
Pour la personne,
Pour la personne, si la personne ne met pas de mots, ça reste une émotion qui n'est pas élaborée. Et en mettant des mots, ça va lui permettre d'élaborer, de trouver une compréhension à son vécu affectif.
Oui, voilà, hein, c'est ça, de comprendre. Et là, ça devient une libération, quelque part.
Et ça devient une libération.
Oui, oui. Et au-delà de... alors, donc, mettre des mots, et au-delà de mettre des mots...
Alors, au-delà, avec les mots, y a le sens qui va arriver.
Et oui.
Sur ce qui a amené la tristesse, mais pas seulement la tristesse, c'est aussi ce qui a amené la situation. Alors parfois ça peut passer par une anamnèse, quand il y a une tristesse chronique ou qui date de longtemps, faut remonter dans le passé. Et même quand on regarde par rapport à un deuil où on sait, la personne sait que la tristesse est liée à la perte, il y a du sens à mettre sur tout le vécu commun tout ce qui a été vécu en commun.
Oui.
Il y a un fil rouge à découvrir. Et ça, ça passe et par la tristesse et par les mots qu'on met dessus et du coup par le sens qu'on va donner.
Oui, et donc il y a une construction qui s'opère.
Et voilà. Et le sens, c'est ce qui va permettre d'intégrer l'expérience.
Oui.
C'est très difficile d'intégrer quelque chose d'absurde.
Oui, il faut comprendre, oui.
Tant qu'on ne met pas de sens, qu'on trouve que c'est absurde, on cherche le sens, et à ce moment-là, par exemple, je pense à des suicides, les personnes vont se repasser les circonstances dans la tête pour chercher, essayer.
Et elles ne trouvent pas.
Et elles ne trouvent pas de sens.
Oui.
Voilà. Et du coup, mettre du sens à son vécu, c'est ce qui permet d'en faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau.
Mmh. Et en faire quelque chose de nouveau, de quelle façon ?
Alors, en intégrant, en fait,
oui,
en intégrant la perte, la perte ou le manque.
C'est l'intégration qui fait, oui.
Voilà. On a vu que quand on perd quelqu'un ou quand on perd quelque chose, la tristesse participe à intégrer en soi, c'est-à-dire à intérioriser en soi ce qui est perdu.
Oui.
Et pour les personnes, il s'agit souvent de retrouver une bonne image intérieure,
oui.
Mais qui n'est plus tout à fait la même. Ah. Quand on dans le deuil, ça va être très instable. Il y a plein de souvenirs qui reviennent, mais il n'y a pas une image intérieure stable, forcément, puisque on vient de perdre la personne.
Oui.
Voilà, donc c'est de réintégrer une bonne image stable à l'intérieur de soi. Et puis pour les situations, par exemple de travail, souvent il s'agit d'une vision idéalisée qui est perdue. Et alors il va s'agir de retrouver une nouvelle vision, un nouveau projet, mais qui va tenir compte de l'expérience acquise, donc qui va être transformé.
Oui. Ah. Et alors, lorsque la perte a été élaborée et intégrée, alors ?
À ce moment-là, ça permet de créer de nouveaux liens. On l'a dit, la tristesse se vit intérieurement et un peu dans le repli sur soi. Et quand la personne a élaboré tout ça, eh bien, elle peut se tourner vers l'extérieur, renouer avec la vie et
créer
des liens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lien avec ce qui a été perdu. On sait bien qu'on conserve un lien avec les personnes aimées, par exemple. Mais le lien a été transformé.
Oui, hein. Bien sûr. Oui. Parce que tout se transforme. Donc là, c'est ça.
Voilà.
Et là, alors c'est des fois difficile dans la relation, mais c'est à vivre aussi, cette transformation.
C'est à vivre, et la tristesse est là pour participer à cette transformation.
Et alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, si on peut dire conclusion.
On pourrait dire que dans beaucoup de situations, c'est normal de ressentir de la tristesse et d'avoir envie de pleurer, et que c'est important de s'autoriser à le faire. Mais que c'est aussi important de l'exprimer et de mettre des mots, de la dire, de dire sa peine à quelqu'un qui pourra comprendre. Et ça va permettre l'élaboration de la situation et surtout de mettre du sens. Et puis à chaque fois que la tristesse est trop intense ou qu'elle dure trop longtemps, qu'elle devient chronique, c'est souvent le signe d'une dépression, et là, c'est absolument nécessaire de se faire aider.
Oui, voilà. Écoutez, un grand merci. Vous pouvez rappeler le téléphone psychrétien et puis les dates.
Alors, le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60.
Oui.
06 60 15 79 60. Et donc, jeudi prochain, à 20h30, au Centre Trinité, il y a une conférence sur les phobies.
Oui.
Comment soigner les phobies. Et le 28 novembre, à l'espace Bernanos, à 18h30, sur comment faire face à la dépression.
L'espace Bernanos, faire face à la dépression. Très bien. Voilà, donc, puis il y a les coordonnées pour...
Voilà, et en tapant psychrétien sur Google, on tombe sur notre site avec toutes ces informations-là et nos stages.
Alors, il y a Brigitte qui nous disait, donc on ne peut pas la prendre, mais je pose la question, comment comprendre le départ d'un frère? Comment peut-on le gérer dans sa tête? Elle vient de perdre son frère âgé de 57 ans.
Voilà, ben, le comprendre, tout dépend de la situation, ça peut être une maladie, ça peut être un accident. Donc, je crois qu'il y a déjà l'événement à comprendre en lui-même.
Oui. À accueillir aussi.
À accueillir, oui. Surtout, oui. Peut-être plus qu'à comprendre, parce que la maladie, après tout...
Il faut l'accueillir. Voilà,
En tout cas, l'accueillir...
L'accueillir, ça veut dire, en un mot.
Voilà, bah, c'est accepter la réalité. Hein,
voilà, accepter la réalité.
Des événements. Pouvoir exprimer sa tristesse, des fois, aussi, quand c'est un être proche, comme ça, de... Il y a tout un tas de souvenirs qui vont revenir.
On peut les accueillir, les souvenirs,
les laisser remonter, en parler aussi, dire « Ah tiens, je me souviens, on avait fait ça ensemble. »
Voilà.
Des fois de feuilleter un album photo aussi, ça
peut
suivant,
aider.
Voilà. Et puis accepter d'être triste parce que c'est normal. Dire sa peine aux proches. Voilà, et petit à petit, le travail de deuil va se faire.
Grand merci. On me demande de redonner le téléphone. Alors, le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60. 06 60 15 79 60. C'est au standard, si vous n'avez pas noté. C'est sur le site aussi, psychretien.com.
Voilà. Hein,
tout est... Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Et puis, tout est au standard dans la journée pour noter si vous n'avez pas noté. Un grand merci, Pascal Parinet. Alors, la prochaine...
On parle de l'orgueil et de l'humilité.
Orgueil et humilité. Voilà le programme. Très bien, merci. Merci à tous nos auditeurs. Merci également à Marie-Françoise et à Catherine qui vous accueillent au standard ce soir et à Guillaume qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute dans la nuit deux invités, deux frères Carmes, le frère Guillaume de Horter qui est prieur du couvent d'Avon en Seine-et-Marne et le frère Jean-Alexandre du couvent de Paris. Ils nous parleront de la retraite en ligne proposée par les frères Carmes de la province de Paris pour l'Avent 2013, désirer la venue du Seigneur avec Élisabeth de la Trinité. C'est le thème de cette retraite en ligne pour l'Avent 2013 proposée par les frères Carmes. Très très bonne nuit à tous, à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
En ce jour qui s'achève, nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous la prions avec les moniales bénédictines de l'abbaye Saint-Michel de Kergonan.